dit, mais je vous dis une chose, la parole de Dieu est une puissance pour celui qui croit.
Alors, pour faire un petit récapitulatif, étant donné qu'on ne va pas tout lire, Esther est donc une reine qui a pris position pour son peuple et qui a osé faire la volonté de Dieu, qui a osé s'imposer selon la volonté de Dieu pour pouvoir, pour que son peuple soit libéré. Et donc, voilà. Donc, on va voir comment ça s'est passé. Et en fait, en lisant Esther, j'ai remarqué trois femmes avec deux attitudes, parce que comme la sœur Audrey l'a dit hier, il n'y a que deux attitudes pour une femme. C'est la femme qui suit le Seigneur et la femme insensée qui ne suit pas les voies du Seigneur. Donc en effet, il y a des millions de femmes, mais il n'y a vraiment que deux attitudes. La femme qui suit le Seigneur, qui soumet sa vie au Seigneur, et celle qui ne suit pas les voies du Seigneur. Alors vous allez voir dans Esther, chapitre 1, verset 12, on voit cette première femme qui est la reine Vasti. Alors en fait, le roi donnait un festin dans son palais pour le peuple, etc. Et la reine, de son côté, donnait aussi un festin pour les femmes dans le palais du roi, donc. Et en fait, on voit là que le roi demande à la reine de venir et que la reine refuse. Or, bon, peut-être que ça vous choque pas à première vue, parce que à première vue, ça m'a pas choqué, à vrai dire. Et en y réfléchissant, je me suis dit, mais cette femme est complètement ingrate, puisqu'elle donne un festin dans la maison du roi, dans le palais du roi. Elle est au bénéfice de cette royauté. Elle est devenue reine grâce au roi. C'est pas le roi qui est devenu roi grâce à elle. Non, c'est lui qui lui a donné ce privilège, qui lui a donné tout ce palais, etc. Et la possibilité de pouvoir donner un festin. Et pourtant, elle refuse. Elle dit non. Et vraiment, ça m'a rappelé l'image de la femme moderne d'aujourd'hui, l'image qu'on veut véhiculer dans les magazines, dans les émissions, etc. Cette femme qui est totalement insoumise, qui est rebelle, et cette femme qui pense que d'elle-même, elle peut s'en sortir, qu'elle n'a pas besoin d'un homme, qu'elle n'a pas, et qu'elle refuse toute autorité. Parce que c'est vrai que dans certaines civilisations, la femme a été totalement maltraitée. Et du coup, le diable s'en est servi pour faire croire aux femmes que la manière pour elles de s'en sortir, d'être des êtres respectés, c'était ça. C'était de braver toute autorité, qu'elle soit spirituelle ou humaine, que ce soit Dieu ou l'homme. Et donc, Vasti, c'est vraiment ça. Elle refuse de se présenter devant le roi alors qu'elle est dans sa maison. Et est-ce que le roi a salué cette force de caractère, s'est dit « Ah, bah dis donc, elle a du caractère celle-là, elle me tient tête. Ah, j'aime bien ça, vraiment, ça me plaît. » Ah non, pas du tout. Au contraire, ça l'a mis dans une fureur. Il a été vexé, il a été humilié. Voilà ce qu'amène dans les mariages une attitude rebelle, une insoumission envers son mari qui vous donne de quoi vivre, etc., qui vous donne l'amour, qui, bien entendu, je parle pas d'un mari violent, etc., je parle pas dans les civilisations où la femme a une condition extrême. On est bien d'accord. Hein. Amen. Mais là, c'était pas le cas pour cette femme, de toute manière. Et donc, elle refuse, et lui, il s'enflamme de colère parce que sa nature d'homme est vexée, sa nature d'homme se sent totalement indignée. Cette femme ne l'honore pas comme elle devrait. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide, on voit au verset 19, qu'on lui dit « Le roi donnera sa dignité royale à celle de ses compagnes qui vaudra mieux qu'elle. » Non, il ne l'a pas trouvée attirante. Non, cette femme ne lui a pas plu. Non, il n'a pas été séduit par cette force de caractère, par cette rébellion. Pas du tout. Au contraire, il a dit qu'il allait chercher une femme qui vaudra mieux qu'elle. Une femme qui n'aura pas cette attitude-là envers lui. Donc, qu'est-ce qu'elle a gagné, Vasti? Est-ce qu'elle a gagné De l'émancipation, la liberté, des richesses, non, rien du tout. Elle n'a rien gagné. Tout ce qu'elle a gagné, c'est qu'elle a été détrônée. La couronne lui a été enlevée. Elle a perdu ses privilèges parce qu'elle-même est sortie. C'est elle-même qui s'est enlevé tous ses privilèges en ne voulant pas se soumettre au roi, à son roi, et elle était dans sa maison. Donc, ça passe et il décide donc de chercher une autre reine, forcément. Puisque celle-ci, apparemment, n'est pas satisfaite. Si une femme ne se soumet pas à son mari, ça veut dire qu'elle n'est pas satisfaite, qu'elle n'est pas heureuse, que son mari ne la rend pas heureuse. Or, si c'est juste un problème de soumission que cette femme a, il est normal que le mari puisse être agacé, puisse être dérangé. Et ce mari va du coup développer une nature qu'on ne lui connaît pas, va développer des défauts qu'on ne lui connaissait pas, va se montrer plus méchant, plus agressif envers cette femme qui pourtant il aimait, à qui il a tout donné. Et parce que cette femme a eu une mauvaise attitude, elle a révélé ce qu'il y avait de plus vil en cet homme. Alors cet homme, oui, a arrêté de vouloir l'honorer. Et bon, on n'est plus dans ce genre de société où on peut changer, on n'est plus au temps des rois, avec les harems, etc., etc. Hein. On est bien d'accord aussi. Et donc, là, se présente Esther. Esther, une jeune fille, chapitre 2, verset 9, qui lui plut et qui gagna sa bienveillance. On ne nous dit pas qu'Esther a parlé plus fort que les autres, s'est montrée plus fort, etc. On nous dit, oui, qu'elle était très belle. Et on nous dit aussi que Vasti était très belle, ceci dit. Donc, Esther arrive au palais, se présente au roi, etc. Et là, on voit au verset 10, Esther ne fut ni connaître ni son peuple, ni son origine, car Mardoché lui avait défendu de les faire connaître. Donc là, déjà, première chose qu'on apprend sur Esther, c'est qu'elle est sous son autorité, sous l'autorité de Mardoché, et qu'elle entre dans le palais, et qu'elle continue d'obéir à Mardoché. Elle se soumet à ce qu'il lui a dit. Elle l'obéit comme une fille obéit à son père. Puisque là, Mardoché, c'est comme son père. Il est devenu son tuteur. Elle n'avait plus de parents, cette fille, Esther. Et donc, Esther fait son entrée au palais. Personne ne la connaissait, en effet. Et j'imagine que si on avait parlé d'Esther à Vasti au temps où elle était reine, sûrement elle aurait été méprisée, sûrement on n'aurait pas fait cas d'elle, si ce n'est que c'était une jolie fille, mais ce n'était pas la reine. Et pourtant, Vasti a donc été détrônée et Esther arrive. Et Esther ne va rien faire de spécial pour pouvoir s'attirer les faveurs du roi. Elle ne va pas essayer par ses propres moyens, par elle-même, d'attirer son attention, de... Non, elle ne va rien faire. Vous savez ce qu'elle avait de plus, Esther ? Elle avait la faveur de Dieu. Et quand on a la faveur de Dieu, on n'a pas besoin de combattre, on n'a pas besoin de faire mille et un gestes, etc., de faire des cabrioles pour qu'on nous remarque. Non, la faveur de Dieu est quelque chose qui attirera le regard sur vous. Les gens vous verront, les gens doivent se dire, puisque vous êtes des enfants de Dieu, les gens doivent se dire, qu'est-ce qu'il a de plus ? Qu'est-ce qui fait qu'il est différent ? C'est quoi cette faveur ? C'est quoi ce petit plus qu'il a que je ne connais pas, que je ne comprends pas ? Vous voyez, c'est ça qu'elle avait, Esther, et c'est ça qui lui a amené la bienveillance des autres. Parce qu'elle avait la faveur de Dieu, elle s'est attirée la bienveillance de tout le reste, de tous les gens autour de lui, autour d'elle et autour du roi d'ailleurs aussi. Et c'est marqué, vous voyez, Esther était vraiment quelqu'un de très simple. On ne nous fait pas un portrait ultra détaillé d'elle, Esther était ceci, Esther était cela. Mais vraiment, c'est ce que je crois, c'est que Esther était quelqu'un de très doux, quelqu'un qui parlait sûrement pas très fort, enfin vous voyez, pas quelqu'un d'effacé, mais vraiment quelqu'un de doux, d'agréable, et que c'est sa force, c'était dans le calme et la tranquillité. Voilà, que c'est comme ça qu'elle est arrivée. Et c'est marqué que quand les jeunes filles allaient au palais, elles pouvaient avoir tout ce qu'elles voulaient. Et c'est écrit que Esther ne réclama rien de plus que ce qui lui était proposé. Non, Esther n'a rien demandé de plus. Elle avait la faveur de Dieu. Qu'est-ce qu'elle pouvait vouloir de plus ? Et alors on peut se dire, voilà, Esther s'est déjà distinguée et devenue une femme de distinction, puisque le roi aima Esther plus que toutes les autres, et elle gagna sa faveur et sa bienveillance plus que toutes les autres vierges. Alors il mit sur sa tête la couronne royale et la fit régner à la place de Vasti. On se dit, voilà, là c'est la consécration d'Esther, voilà, c'est bien, elle est sortie de nulle part, elle a été élevée, Dieu l'a placée à la tête Près du roi, voilà, bah c'est fini. Bah non, sauf que ça c'est juste le deuxième chapitre dans Esther et il y a toute une autre histoire. Parce que ça, ce n'était que le début du commencement pour Esther, c'était rien du tout. Et ce que je veux vous dire aussi par rapport à Esther, c'est que elle n'a pas été amenée à prendre position pour son peuple parce qu'elle était reine. Je crois qu'elle avait déjà pris une décision avant dans son cœur et que c'est pour ça que Dieu l'avait choisie pour l'amener à la place de reine. C'est comme vous voyez un ministère qui se tient devant vous. Il n'est pas arrivé là du jour au lendemain. C'est pas parce qu'il est là que d'un seul coup, Dieu l'honore, Dieu lui donne des paroles, etc. C'est parce que cette personne-là, elle a passé du temps dans la présence de Dieu, elle a cherché Dieu, et Dieu a trouvé bon de l'appeler et de le lever, de l'honorer. Voilà, vous voyez, Esther, c'est la même chose. C'est le commencement, oui, c'est vrai, le commencement, c'est le fait qu'elle soit devenue reine, parce que, de par sa position, elle a pu intervenir. Mais tout avait commencé avant. Esther s'était préparée avant. Esther avait pris une décision pour Dieu. Esther avait décidé d'avoir une certaine attitude. Elle était intègre, elle était bonne, elle était juste. Et elle avait décidé de ne pas marcher dans le compromis. Elle avait décidé sûrement de ne pas se conformer au siècle présent. Elle était jolie, c'est vrai. Mais on ne dit pas d'elle qu'elle était clinquante, etc. Non, pas du tout. Et vous voyez, c'est pareil. Comme ce qu'a dit Audrey hier, la sœur Audrey, pardon. C'est que quand on rate une étape, l'étape d'après est très difficile. Et vous voyez, pour le mariage, si vous ne vous préparez pas avant, quand on dit jeune fille, cherchez à plaire au Seigneur, ça veut dire que vous devez vous préparer déjà. Vous devez vous préparer à avoir ce cœur d'épouse qui va aider, qui va soutenir et qui sera peut-être dans l'ombre. Et voilà, il faut vraiment vous préparer. Comme Esther s'est préparée et elle a pu être reine parce qu'elle s'était préparée avant. Alors pour vous, toutes les jeunes filles, et les jeunes hommes d'ailleurs aussi, préparez-vous. Quand on vous dit chercher le Seigneur, c'est de disposer votre cœur, c'est de devenir avant la personne que Dieu veut que vous soyez. Parce que ne croyez pas que le mariage va tout régler dans votre vie, que si vous avez des problèmes, tout va disparaître parce que vous vous mariez. Non, on règle ces problèmes avant le mariage. On dispose son cœur et on change ce que Dieu veut que nous changions. Parce que si vous n'êtes pas bon pour vous-même aujourd'hui, que vous faites du mal, ne croyez pas que vous allez réussir à rendre quelqu'un heureux. Ce n'est pas possible. Donc, soyez comme Esther, préparez-vous avant, prenez une décision, et ça c'est une décision vraiment entre vous et Dieu. C'est des choses que personne ne verra, c'est des choses, voyez, qui ne sont même pas relatées là dans la Bible. On ne dit pas ce qu'Esther a fait, on ne dit pas ce qu'Esther a pris comme décision, etc. Non, on nous raconte juste ce qu'elle a fait après. Mais voilà, tout ça c'est des choses de l'ombre, et toutes ces choses... quand vous voyez des gens qui sont honorés, tout ça, et si ça vient de Dieu, ça peut pas venir comme ça. C'est pas genre il s'est réveillé et hop, aïe, il est devenu pasteur, il est devenu enseignant, évangéliste. Non, 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 c'est pas comme ça. Il y a eu tout un travail de fond derrière. Et j'en suis sûre et certaine qu'Esther avait pris cette décision dans son cœur, qu'elle voulait servir son Dieu, qu'elle voulait servir son Seigneur et qu'elle s'était mise à son service. Et qu'elle avait dit... Peu importe où tu m'envoies, peu importe ce que tu me demandes, je le ferai. Et je ne pense pas que dans son cœur, elle savait tout de suite qu'elle allait devenir reine, que le Seigneur lui avait révélé qu'il lui donnerait cette place de choix. Mais il lui a sûrement révélé après. Et donc, Esther est couronnée. Et voilà. Et on voit, quelques versets plus loin, verset 20, Esther exécutait les ordres de Mardochée comme elle était sous sa tutelle. On voit encore ce cœur qu'avait Esther, ce cœur d'obéissance, ce cœur de soumission. Elle avait compris qu'il y avait une puissance dans l'obéissance. Elle avait compris que les conseils de Mardochée, c'était pas pour l'emprisonner, c'était pas pour la ligoter, pour l'empêcher de parler. Non, elle ne savait peut-être pas exactement pourquoi, mais elle avait compris qu'elle devait le faire. Elle a compris qu'elle devait obéir. Alors arrêtez quelquefois de poser mille questions. Mais pourquoi on doit obéir? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Vous savez, quelquefois... Votre pasteur, il voit plus loin que vous. Il voit où on va. Il voit plus haut. Regardez dans le plan naturel, le berger, il est debout. Il voit plus loin. La brebis, elle est plus bas. Elle voit plus bas. Mais c'est normal. C'est pas insultant. C'est pas une nature insultante que d'être brebis. Non, c'est un privilège. Parce que vous avez un berger, vous avez été choisi. Vous êtes l'élu de Dieu. Vous êtes appelé par Dieu. Mais le berger voit plus loin. Le berger voit le danger qui arrive. Le berger Donc si vous continuez, il y aura cette oasis. Alors il vous encourage à aller, 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 aller. Même quand vous dites non, le berger sait que par là c'est la bonne route. Il sait que par là ça sera pas bon. Il sait par là que vous allez vous faire tuer, vous allez vous faire démonter. Alors quelquefois, on veut poser 1000 questions, on veut tout comprendre. Vous savez, Dieu a un ordre. Dieu a institué un certain ordre. Dans le couple, dans la famille, dans les ministères, dans l'église, etc. Alors si vous êtes sous un ministère, il faut suivre cet ordre, il faut savoir où est votre place, il faut savoir pouvoir obéir à votre autorité sans toujours savoir exactement le pourquoi, du comment, on va là, on fait ci, on fait ça. Faites confiance au Seigneur, parce que je crois que le Seigneur place les autorités comme lui le souhaite. Il sait qui il appelle, il sait ce qu'il met dans ces gens-là. Alors je crois qu'il faut qu'on obéisse. Et je crois. Et Esther obéissait à Mardoché, mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas à ce moment-là ce qui allait arriver à son peuple. Elle ne savait pas encore que son peuple allait être menacé d'être totalement exécuté. Elle ne savait pas tout ça. Et pourtant, elle se tait. Elle fait ce que Mardoché lui dit. Et pourtant, Mardoché n'est pas toujours là, derrière elle, à surveiller ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas, etc. Comme Audrey l'a dit hier, il faut être des femmes soumises, comme notre mari est là, y compris quand notre mari n'est pas là. D'accord ? C'est pas une attitude de façade qu'on doit avoir, parce que sachez que même si votre mari n'est pas là, lui, le Seigneur est là, il voit toutes choses, il sait toutes choses. Et on ne joue pas avec le Seigneur, on ne se cache pas du Seigneur. Et quand les gens se sont cachés, c'est quand Adam et Ève se sont cachés parce qu'ils avaient péché, et ils ont eu honte de leur faute, et là, ils se sont cachés. Donc si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez pas de raison de vous cacher, et vous êtes libre en Christ.
Amen.
Et donc, cette fameuse Esther a joué un rôle tellement capital. Donc, pour récapituler, il y avait Aman, qui était le favori du roi, et qui a décidé de faire exterminer tous les juifs, parce qu'il a vu que Mardoché ne s'agenouillait pas devant lui à son passage. Il a été fortement offensé, Aman, et de tuer seulement Mardoché ne le suffisait pas. Il a décidé, du coup, de tuer tous les juifs. Donc, vous voyez ça part d'un homme, d'une femme, d'Esther, de Mardoché, et là on en arrive à l'extermination d'un peuple en entier. Donc, Aman va décider de faire périr le peuple, et il va réussir à faire passer sa décision au roi, etc. Et là, il en fait part à Esther, qu'il découvre parce que Aman a pris le sac et la cendre, les juifs se lamentent, les juifs pleurent, les juifs sont complètement dans le désarroi, ils ne voient plus aucune solution, ils ne voient aucune issue à ça, ils ne pensent pas, j'imagine, à Esther qui pourrait faire quelque chose, cette jeune femme jolie. Non, ils se sentent totalement condamnés. Et là, Aman fait dire à Esther ce qui va leur arriver. Il lui dit, d'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenue à la royauté. Et en effet, vous voyez, Esther est arrivée reine, non pour son bon plaisir, pour seulement l'honorer, pour le port de la couronne, etc. Non, elle est venue là dans un seul but. C'était pour son peuple. C'est parce qu'elle avait une destinée à accomplir, parce qu'elle avait des plans à réaliser, parce que le Seigneur avait prévu tout ça. Le Seigneur savait toutes choses. Il savait qu'il pouvait compter sur Esther. Vous voyez, c'est pour ça qu'Esther n'est pas devenue une femme de distinction au moment où elle est devenue reine. Parce que sinon, elle n'aurait rien été de plus que comme la reine Vasti, une jolie reine. Non, ce n'était pas ça pour Esther, être une femme de distinction. Esther est devenue une femme de distinction quand elle s'est levée pour son peuple, quand elle a pris parti pour son peuple, et quand elle a été devant son roi pour demander que son peuple soit libéré, que son peuple ne périsse pas. Et voilà, et on voit l'action surnaturelle de Dieu. Parce que Esther, encore une fois, on voit que dans sa soumission, dans son obéissance, elle avait la faveur de Dieu. Elle n'a pas eu besoin de transgresser des interdits. Elle n'a pas eu besoin de mentir, etc., de marcher dans le compromis. Non, elle a dit, mais si je vais devant le roi et que je n'y suis pas invitée, je vais périr. Et c'était vrai, et elle ne l'a pas fait, elle s'est juste présentée dans la cour. Et là, la Bible dit que tout de suite, elle a obtenu la faveur du roi, parce que Dieu était avec elle, et qu'il l'a pointée. Et elle a pu venir dans sa présence, elle a pu venir lui porter sa requête, et elle a pu venir plaider pour le peuple, pour son peuple. Et voilà, c'est à ce moment-là que Esther est devenue une femme de distinction, parce qu'elle est partie en disant, Si c'est pour ma perte, alors je périrai. Vous voyez, c'est comme ça qu'Esther est devenue une femme de distinction. Elle n'est pas devenue une femme de distinction quand elle a été couronnée. Elle est devenue une femme de distinction quand elle a pris l'épée de la parole, quand elle s'est décidée de se lever pour son roi et qu'elle a obéi. Elle a, c'est vrai, elle s'est soumise à Mardoché dans le naturel, mais elle s'est d'abord soumise à son Dieu. Et je crois qu'Esther était une femme d'esprit, une femme qui suivait l'esprit de Dieu, puisqu'elle a dit à Mardoché d'aller jeûner pendant 3 jours. Elle lui a donné des recommandations qu'elle avait reçues, j'en suis sûre, de la part du Seigneur. Et vous voyez, ça a porté ses fruits. Aman a totalement été confondu d'une manière incroyable. Vraiment, enfin, quand vous aurez le temps chez vous, lisez tout ça, le verset 6, c'est incroyable comment Aman a été confondu. Lui, l'orgueilleux, lui qui voulait faire périr le juif, les juifs, il a été totalement confondu. Et vous voyez, Aman d'ailleurs avait une femme, et on la voit intervenir 2 fois. Elle s'appelait Zeresh. Et Zeresh était d'un mauvais conseil. Aman avait des mauvais plans, avait des desseins mauvais, n'avait pas le plan de Dieu dans son cœur, ce n'était pas son désir. Son désir, c'était que des choses vaines, c'était de réussir, de s'enrichir, d'avoir une place importante. Vous voyez, c'est cette deuxième attitude qu'on peut avoir, chercher l'honneur en s'enrichissant, en essayant à tout prix d'avoir tout ce qu'on peut avoir, peu importe le moyen. Et c'est ce qu'a fait Aman. Et jusqu'à un certain moment, ça a payé, puisqu'il était le favori du roi. Mais Aman a fini pendu à la potence que lui-même avait construite pour Mardoché. Vous voyez à quel point Dieu renverse les choses. Dieu fait justice à ses enfants. Dieu fait justice à ceux qui l'honorent, à ceux qui le suivent. Et Zeresh était comme Vashti. Elle était une femme de mauvais conseil pour son mari. Ce n'était pas une épouse selon le cœur de Dieu. Elle n'a pas eu le bon conseil pour son mari, pour lui dire non, Aman, tu te trompes. Aman n'a pas eu le bon conseil pour pouvoir prier pour lui. Parce qu'en tant que femme aussi, nos maris peuvent se tromper, ça c'est sûr. Mais nous ne sommes pas là pour les afficher en public, pour les humilier, ce n'est pas notre rôle. Nous ne sommes pas là pour les corriger et pour leur mettre la honte devant tout le monde, etc. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Si votre mari est dans l'erreur, ce qui peut arriver, priez pour lui. Parce que vous savez, vous pourrez dire 1000 mots pendant 1000 fois, pendant 10 ans, et votre mari ne changera pas. Mais priez pour lui et le Saint-Esprit va le changer. Le Saint-Esprit va lui parler. On ne peut pas remplacer le Saint-Esprit. On ne peut pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas. Vous vous agenouillez devant votre Dieu et dites-lui, voilà, je crois qu'il se trompe. Et vous verrez qu'en plus, si ça se trouve, c'est vous qui êtes dans l'erreur. Donc vraiment, dans ces cas-là, n'étalez pas votre vie privée devant tout le monde en essayant de faire prendre les gens partis à vos disputes et tout ça. Non, mettez-vous devant votre Dieu. Et c'est lui qui va vous trancher par sa parole. Parce que sa parole est une épée à double tranchant. Alors mettez-vous devant lui. Et donc Esther, on en revient donc à cette fameuse Esther qui a vraiment rempli son rôle. Vous voyez, elle a rempli son rôle, elle a accompli sa destinée, ce pourquoi Dieu l'avait appelée. Et je ne crois pas qu'elle aurait pu le faire si elle ne s'était pas équipée avant, si elle n'avait pas eu cette attitude avant. Parce que le moment où elle a dû faire un choix est venu. C'était un choix, elle n'était pas obligée de prendre parti pour son peuple et elle l'a fait. Et je crois que si elle ne s'était pas préparée avant d'accéder à cette place d'honneur, je crois qu'elle aurait pu abandonner. Elle aurait pu dire non, moi je suis ici et tant pis, le peuple périra, je ne dirai pas que je suis juive et voilà. Ça aurait pu se passer comme ça. Mais non, Esther était une femme de distinction, une femme selon le cœur de Dieu, qui a su élever sa voix, qui a su s'imposer pour la bonne cause, pour la cause de Dieu, pour une cause juste, pour une cause qui venait du ciel et pas pour des choses vaines de ce monde. Vous voyez, Esther, c'était cette femme, c'était vraiment une femme selon le cœur de Dieu. Et je crois qu'on doit prendre exemple sur elle aujourd'hui. Alors c'est sûr, on n'a peut-être pas un peuple à libérer, mais vous voyez, on a des responsabilités. On a des personnes dans notre entourage où nous sommes responsables. Alors il faut se préparer, on doit se préparer. Parce que le jour vient où le Seigneur va vous utiliser pour proclamer sa parole, pour proclamer la parole aux cœurs brisés, aux captifs, aux opprimés. Il faudra que vous soyez prêts ce jour-là. Il faudra que vous puissiez proclamer avec puissance, avec assurance, tout ce que le Seigneur a pour vous. Alors préparez-vous dès aujourd'hui, parce qu'Esther, on n'en fait pas, je vous le dis encore, on n'en parle pas, mais Esther s'était préparée. Esther avait un cœur disposé pour l'œuvre de Dieu. Esther avait un cœur disposé pour le Seigneur. Alors disposez vos cœurs, parce que c'est ce qui va tout changer. C'est vraiment tout ce qui va changer pour vous dans votre vie. Et en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne les femmes mariées, je vous disais de ne pas étaler tous vos problèmes, etc., au grand jour, parce que oui, en effet, on règle ces histoires avec le Seigneur. Le couple, c'est quelque chose de particulier, et c'est quelque chose qui peut être très fort, mais qui peut être très fragile. Le couple, c'est une force dans le Seigneur. Mais le diable a vraiment voulu détruire cette force, a voulu nous faire croire que le couple, ce n'était rien, que ce n'était pas durable, que ce n'était pas fort et que c'était un poids. Et vous voyez tout ce qu'on entend maintenant, les divorces, etc. Le diable est rentré par mille et une façons dans les couples, l'adultère, l'argent, la séduction, bref, tout ça. Mais le couple, c'est une force. Quand vous vous tenez à deux devant le Seigneur, deux va mieux qu'un, parce que quand vous êtes à deux devant le Seigneur, vous vous rendez compte comment vous pouvez faire trembler les cieux. Comme vous êtes deux devant le Seigneur, c'est une puissance. Vous pouvez accomplir des grandes choses, parce que la Bible dit que nous ne sommes plus qu'un à ce moment-là. Alors si ce un est déchiré, mais votre couple ne va pas tenir. Et vraiment, la seule manière de faire tenir ce couple, c'est en ayant Jésus. Jésus, cette pierre qui va vous tenir. Et voilà, encore une fois, c'est tout ce travail en amont. Si vous ne le faites pas avant, si vous ne vous construisez pas chacun de votre côté, ce sera très difficile, une fois en couple, de construire votre couple et d'avancer. Parce que si vous n'êtes pas une personne construite, une personne stable dans le Seigneur, qui sait qui il est dans le Seigneur lui-même, et que votre mari, parce que je vais parler aux femmes aussi, quand vous allez vous retrouver tous les deux, c'est pas que deux faibles vont faire un fort. Non, c'est que deux faibles vont rester deux faibles. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc préparez-vous pour toute chose, c'est valable pour tout, mais vraiment pour le mariage. Cherchez le Seigneur, ça veut dire préparer, disposer vos cœurs à être des femmes qui vont aimer leur mari, des femmes qui vont soutenir leur mari. Parce que vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est pas tous les jours facile. C'est vrai. Avec le Seigneur, on s'en sort. Nous avons une vision différente. Nous avons une espérance différente. Mais les circonstances adverses sont là. Et vous devez être cette femme qui va relever son mari. Cette femme qui aura des paroles d'encouragement. Cette femme qui saura avoir un amour inconditionnel pour son mari, même s'il se trompe, même s'il est parti du mauvais côté, même s'il y a des jours difficiles. Il faut être cette femme qui saura relever son mari, cette femme qui va honorer son mari, qui saura honorer son mari quand tout le monde lui crachera dessus, que vous serez là à ses côtés pour lui dire que c'est un homme digne, un homme que Dieu a choisi, un homme que Dieu a appelé. Et je vous le dis... En fait, avec Jérémy, vous connaissez Jérémy, il est d'Enseigne-moi, c'est un des fondateurs d'Enseigne-moi. Donc, il n'est pas encore dans le ministère, à proprement parler, dans les 5 ministères, mais il fait partie d'Enseigne-moi, donc c'est un ministère d'aide, il y travaille à plein temps. Et vous voyez, ça c'est l'œuvre de Dieu. Et quand on a décidé, enfin, quand il a reçu la vision avec son ami Mickaël, d'Enseigne-moi, si lui l'a reçu, je la reçois avec lui, parce que nous sommes un, et parce qu'il ne peut pas faire quelque chose si je ne suis pas avec lui. Ou alors il ne le fera qu'à moitié, et je ne veux pas être un frein pour lui. Je ne veux pas être une jambe courte pour lui. Je ne veux pas être cette jambe qui le fasse clampiner. Non. Je veux être, au contraire, cette jambe forte qui lui donne de l'élan quand il n'a plus de force dans sa propre jambe, vous voyez. Et dans l'œuvre de Dieu, on a des combats. Il y a de l'adversité. Et c'est pour ça que si vous vous tenez à deux forts, un couple qui prie est un couple qui ne périt pas. Un couple qui prie est un couple fort. Un couple qui prie est un couple que le diable ne peut pas attaquer. Alors soyez vigilantes, soyez vraiment vigilantes à tenir votre mariage ferme et pas avec des tours de passe-passe. Non, c'est pas ça. Mais vraiment, dans la prière, avec le Seigneur, et d'aimer votre mari d'un amour surnaturel, de l'amour divin dont la Bible nous parle, d'un amour qui ne soupçonne pas le mal, d'un amour qui est patient, d'un amour qui est doux. Je vous encourage à aimer vos maris de cette manière-là. Parce qu'aujourd'hui, l'image du couple, de la femme, de la manière dont on doit se comporter avec nos maris, a totalement été tronquée. Dans les magazines, vous ne lirez pas ça. Ce n'est pas un message en vogue. Même parmi les chrétiens, ce n'est pas un message en vogue. Il y a des femmes chrétiennes qui ne veulent pas se soumettre à leur mari parce que pour elles, c'est fini ce temps-là. Mais non, la soumission, il y a une puissance dans la soumission. Et comme disait la sœur Audrey, si mon mari m'aime, pourquoi ne me soumettrais-je pas? Il m'aime, il va me donner le meilleur, donc je vais me soumettre, je sais qu'il me donne le meilleur, que s'il me dit de faire ça, d'avoir telle attitude, de dire telle chose, c'est pour mon bien. Et je sais que dans cette obéissance, il y a une puissance de la part de Dieu. Vous aurez la faveur de Dieu, vous aurez l'approbation de Dieu. Dieu est là, Dieu, c'est lui qui a institué ce principe. Alors là, le principe qu'il institue, ce n'est pas pour notre perte, ce n'est pas pour notre souffrance, c'est pour notre réussite, c'est pour notre succès, c'est pour notre épanouissement. Il ne veut pas qu'on soit des femmes, des robots, il ne veut pas qu'on soit des femmes dénuées de tout sentiment, dénuées de tout bon sens, non, pas du tout. Il veut qu'on soit des femmes de Dieu qui le servent avec force, des épouses fidèles, des épouses bonnes qui font la différence dans le monde, qu'on soit des couples qui donnent envie, qu'on se dise « Mais pourquoi? Pourquoi ça marche? Qu'est-ce qu'ils ont encore après tant d'années ?» Il veut qu'on soit ces femmes-là. Il ne veut pas qu'on soit ces femmes qui perdent du temps dans les choses vaines du monde. C'est vrai, vous pouvez vous habiller, vous pouvez vous maquiller, ce n'est pas une mauvaise chose. Faites-vous belle pour votre mari, ça lui fera plaisir, mais ce n'est pas ça qui va tenir votre mariage. Et ce n'est pas comme ça non plus que vous allez construire votre mariage. Vous allez préparer votre mariage, surtout les jeunes filles. Ce n'est pas parce que vous aurez les plus beaux habits, la plus belle voix, le plus beau maquillage, que vous pourrez attirer l'homme que Dieu a pour vous. Non, parce que ce sera dans le spirituel que ça va se passer. Si vous êtes belle, tant mieux. Mais vous voyez, la distinction d'Esther, ce n'est pas parce qu'elle était belle. Et pourtant, elle était belle. Sa distinction, ça a été parce qu'elle s'est levée pour son peuple. Elle a obéi à Dieu. Alors, je choisis d'être comme Esther et d'être une femme distinction. Parce que je me lève pour mon Dieu, parce que je proclame sa parole et parce que je veux faire sa volonté et suivre ses plans. Alors, je vous encourage vraiment à prendre cette décision et à relire Esther avec ce cœur-là qui veut être enseigné, qui veut se soumettre à la volonté de Dieu. Donc voilà, je vous laisse avec cette pensée-là. Je vous remercie beaucoup. Amen.